Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La crise sanitaire et ses contraintes pèsent encore sur nos existences et sur la vie culturelle, mais fort heureusement, un certain nombre d'événements musicaux ont eu lieu et vont avoir lieu dans les jours et les semaines qui viennent. Nous croisons les doigts pour que tout se passe bien et que la musique reprenne enfin tous ses droits dans les salles de notre région. En tout cas ici à Mélomanie, nous tenons bien la barre et nous gardons le cap pour vous faire partager notre passion pour la grande, la belle musique. Et en parlant de passion, je reçois justement deux passionnés aujourd'hui. Tout d'abord, le toujours fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il est accompagné de Jean-Marc Andrieux, l'invité d'honneur de ce numéro, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban. Jean-Marc Andrieux est également le fondateur et le directeur artistique du festival Passions Baroque, dont la 6e édition se tient à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne du 3 au 11 octobre. La programmation du festival est sous-titrée cette année aux rives du baroque, et nous allons bien sûr en parler dans le détail en seconde partie d'émission avec Jean-Marc Andrieux. Pour l'instant, place à l'actualité récente et à notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité récente, c'est d'abord le concert de rentrée de l'Orchestre National du Capitole, donné le 10 septembre à la Halle au Grain. Tougan Sokiev dirigeait l'ensemble symphonique toulousain, mais il y a eu un changement concernant le soliste invité de cette soirée. Initialement, ce devait être Hao Chen Zhang, mais celui-ci n'a pas pu se déplacer à Toulouse, bloqué dans son pays en raison de la crise sanitaire. Une fois de plus, Serge Chauzy, vous avez assisté au concert. Quel est le musicien qui a remplacé le jeune pianiste chinois ?
Eh bien, le jeune pianiste chinois était remplacé par un jeune pianiste coréen qui venait de Séoul et dont le nom, et je ne garantis pas l'accent, Seong Jin Cho.
Oh, ça doit être ça.
Bravo.
Je suis sûr que c'est ça.
C'est pas loin.
Je suis sûr que c'est ça.
Donc, vraiment, un jeune pianiste qui a beaucoup impressionné, qui a eu un très grand succès. Alors, il a joué la partie soliste du 3e concerto pour piano et orchestre de Beethoven. Enfin, je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agissait donc du concert de rentrée et donc le retour enfin de la musique vivante à la Halle au Grain. C'est ce que vraiment le public attendait. Mais néanmoins, étant donné les circonstances sanitaires, la jauge de la Halle avait été réduite et elle n'était qu'à 1400 places, qui représentent les deux tiers de la capacité totale. Donc, la distanciation physique était respectée. Les spectateurs avaient tous un sourire bleuté, puisqu'ils étaient tous masqués, évidemment. Donc, ce premier concert, sa première partie était consacrée à Beethoven, avec tout d'abord l'ouverture de Fidelio, son unique opéra, mais vraiment de Fidelio, parce qu'on sait que Beethoven a composé quatre ouvertures, en fait, quatre Léonore, et puis une ouverture de Fidelio. Et donc, c'est l'ouverture de Fidelio qui était donnée, et alors, vraiment, dès les premiers accents de l'œuvre, c'est la détermination qui s'est imposée. On a vu que, vraiment, les musiciens avaient envie, Tougan Sokiev aussi, de souligner l'intensité dramatique de cette ouverture. Donc, très belle ouverture que celle de ce concert, avec précision et énergie, comme très souvent c'est le cas avec l'Orchestre du Capitole. Et puis, enfin, donc, le concerto pour piano orchestre numéro 3, donc, de Beethoven, avec ce jeune pianiste qui a 26 ans, et vraiment, qui a fait preuve d'un engagement, à la fois de tout son corps, de toute sa passion. Je me suis dit, en l'entendant, voici à l'évidence un pianiste de caractère, qui ne fait pas dans la grisaille. Vraiment, il a imposé son jeu, avec un premier mouvement qui a paru comme un combat. Le piano semblait rugir par moments, c'était tout à fait impressionnant, avec un très bel équilibre avec l'orchestre, mais ça, il faut dire que Tougan Sokiev est un habitué de ce genre de confrontation soliste-orchestre. Et donc, avec quand même des plages de douceur, de doute même. Vraiment, une très belle exécution avec un final de joie, de bonheur. On avait l'impression d'assister à un opéra en trois actes qui finit bien. Et puis, il a joué un bis.
J'allais vous poser la question.
Il a été très sollicité. Et alors, il a joué un bis de Robert Schumann, pas de Beethoven, donc. Un bis qui s'appelle Einsamer Blumen, ce qui signifie fleur solitaire. Alors, un bis qui a calmé un peu l'enthousiasme délirant du public à la fin du concerto.
Et deuxième partie.
Alors, deuxième partie.
On est resté en Allemagne.
Oui, en Allemagne, un peu plus tard.
Un peu plus tard.
On est resté par peut-être le compositeur qui a le plus admiré Beethoven et qui en a même été inhibé au point de composer sa première symphonie qu'à plus de 40 ans, Johannes Brahms. Mais là, il s'agissait de la troisième symphonie. Alors, une troisième symphonie dont Tougan Sokiev a avoué précédemment qu'il ne l'avait jamais dirigée et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Il a dirigé les trois autres, mais pas cette troisième. Donc là, vraiment, il a empoigné cette partition de manière tout à fait convaincante avec des solos comme l'Orchestre du Capitole sait nous en donner. Et il y avait vraiment, dès les premières mesures, une espèce de souffle irrésistible qui émanait de cette introduction. Puis donc, quatre mouvements magnifiquement joués, avec bien sûr le mouvement, le tube, le troisième mouvement, qui est le pourquoi l'Allegretto, avec cette musique que tout le monde connaît et fredonne, puisqu'elle a été la musique du film d'Anatole Litvak, Aimez-vous Brahms, suivant en cela l'ouvrage de François Sagan, et qui a aussi été le thème de plusieurs chansons, hein, d'Yves Montand, de Serge Gainsbourg,
oui,
etc. Donc, beaucoup d'élégance et de lyrisme dans ce thème, donc c'était très très beau, et donc un final tout à fait dramatique, avec un parcours un peu sinueux, très bizarre, mais très bien développé, et donc c'était l'animation qui a dominé toute cette exécution. Vraiment un très beau moment, ce premier concert.
Et une belle rentrée donc pour l'Orchestre National du Capitole. Eh bien, si Tougan Sokiev n'a jamais dirigé la troisième de Brahms avec l'Orchestre du Capitole ni avec aucun autre orchestre, les musiciens de l'Orchestre du Capitole l'ont eux déjà joué, sous la direction par exemple du chef espagnol Juanjo Mena. On écoute tout de suite cette version, le très célèbre début du troisième mouvement. Le début du troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Johannes Brahms, une version de l'Orchestre du Capitole, sous la direction de Juanjo Mena. Nous allons maintenant retrouver les musiciens de l'Orchestre du Capitole en formation de chambre, cette fois-ci, en revenant sur le concert des Clés de Saint-Pierre du vendredi 11 septembre. Ce n'était pas vraiment le premier de la saison 2021, mais en fait le dernier de la saison précédente, qui avait dû être reporté puisque programmé fin avril, en pleine période de confinement. Il a donc pu avoir lieu et c'était une soirée très originale à plus d'un titre, choisi avec des œuvres très rarement jouées par un type de formation tout aussi rare et avec une artiste qui dessinait en direct pendant le concert. Racontez-nous un peu ça.
Eh bien oui, c'était donc le dernier concert de la saison des 20 ans. Tous les concerts de cette saison précédente donc étaient des concerts un peu particuliers pour lesquels à la musique était associé un autre art, en l'occurrence ici le dessin. Et donc ce concert qui était intitulé « Dessine-moi un concert » eh bien, était tout à fait original, puisqu'il y avait quelqu'un pour espionner en quelque sorte les cinq musiciens qui composaient ce quintet avant. C'était Sandrine Foller, qui est une plasticienne et dessinatrice, donc, et qui, en direct, en même temps que les musiciens jouaient, dessinait en particulier des portraits des musiciens. Et on observait sur un écran la projection de ces dessins. C'était tout à fait original, tout à fait intéressant. Et ça ne venait pas perturber l'écoute, hein, parce que c'est quand même important. Mais c'était très bien agencé, bien fait, avec ces projections, tout à fait en situation avec la musique. Et puis il faut dire qu'un vidéaste du nom de Jonas Lopez s'occupait de, en même temps, de projeter quelquefois des zooms sur les musiciens.
De capter des moments du concert,
capter des moments,
des moments de la création en direct, hein, des dessins. Hein.
Exactement. Alors, le programme de ce concert, c'est vrai que ça faisait plaisir, parce que ce sont des compositeurs et des œuvres qu'on n'entend strictement jamais. Alors, avec certains compositeurs un peu moins connus que d'autres, mais bon, Malcolm Arnold, on le connaît pas très bien, hein,
non,
en France.
Bon, non.
Et ben, pourtant, c'est un très grand compositeur, hein, de qualité, qui a vécu de 1921 à 2006, donc qui est mort il n'y a pas
très
longtemps.
Très contemporain, hein, donc.
Très contemporain. Et puis, il y avait Samuel Barber. Alors, lui, on le connaît par son fameux Adagio pour cordes. Là, c'est vraiment un must. Hein,
presque envie de dire hélas pour lui, parce que
oui,
du coup, ça occulte tout le reste de son œuvre.
C'est l'arbre qui a caché la forêt, oui. Alors qu'il a une très belle œuvre, hein, mais on ne connaît que ce fameux Adagio. Et puis, il y avait une œuvre de Luciano Berio, je vais y revenir, et une œuvre de Gheorghi Ligeti, ça, deux compositeurs quand même.
Oui, qui ont pesé sur la deuxième moitié du XXe siècle.
Voilà, exactement. Donc, le tout a commencé avec, alors, le titre est particulier, c'est « Three Shanties » de Malcolm Arnold, donc le britannique Malcolm Arnold. C'est une œuvre qui date de 1943 et ce sont trois pièces inspirées de chansons de marins. Et en cela, elles sont très originales, elles sont jouées donc par le quintet. Il faudrait peut-être quand même indiquer quels étaient les musiciens qui participaient.
Oui, ce serait bien pour eux.
Ça serait quand même bien. Alors, donc, il y avait cinq musiciens des pupitres d'instruments avant, avec Florence Fourcassier à la flûte, Louis Séguin au hautbois, Florian Tardy à la clarinette, Estelle Richard au basson et Benoît Huy au corps. Voilà quels étaient les cinq musiciens de ce quintet.
Tous très bons. Hein,
vraiment. Tous excellents,
très,
vraiment.
Très bon.
Alors, avec des solos, évidemment, dans chacune des pièces, il y a des solos de l'un ou de l'autre, et donc on a pu apprécier la qualité que l'on connaissait déjà, étant donné leur performance au sein de l'Orchestre National du Capitole. Donc, les trois pièces de Malcolm Arnold, la première est amusante, elles ont deux titres, mais la première, elle veut montrer les divers stades de l'ébriété prononcée d'un matelot, un chant de soulard en quelque sorte, et puis un deuxième mouvement tout en douceur, et puis un final, Allegro vivace, alors moi qui me fait penser à une espèce de pied de nez qui est joué, vraiment une œuvre très réjouissante, très amusante, enlevée, légère, sans prétention, très bien faite, donc très belle œuvre. Ensuite, après Malcolm Arnold, c'était Samuel Barber. Alors là, c'était une pièce en un seul mouvement, très intéressante et pleine de poésie et de couleurs surtout.
C'était une belle découverte parce que
ah oui, complètement.
Pas du tout.
Une œuvre qui s'appelle Summer, donc été, hein, qui date de 1956, hein, avec notamment quelques beaux solos de hautbois. Et donc Louis Séguin doit être félicité parce qu'il a joué ses solos de manière tout à fait magnifique. Alors, peut-être que la pièce la plus originale, c'était quand même la pièce de Luciano Berio, mais on pouvait s'y attendre.
Déjà rien que le titre.
Oui, alors...
Opus Number Zoo.
Opus Number Zoo, Zoo, oui, exactement. Donc, c'est une espèce de portrait d'animaux.
Hein, c'est son carnaval des animaux à lui.
Voilà, exactement.
Alors, rien à voir avec Saint-Saëns. Hein.
Ah non, rien à voir. Alors, avec des titres assez amusants. Alors, je donne des titres en français. Le premier, c'est le bal champêtre. Le deuxième, le cheval. Troisième, la souris grise. Et quatrième, les matous. Alors, la particularité de cette pièce, c'est que, donc, il y a un texte. Et le texte
est dit par les musiciens
eux-mêmes, au moment où ils ne jouent pas, évidemment, quand ce sont leurs collègues qui
jouent. Surtout avec des instruments avant, c'est pas facile.
Souvent, c'est difficile. Si c'était des instruments à cordes...
Je confirme.
N'est-ce pas,
hein? Ah bon, vous êtes flûtiste?
À l'origine, les textes sont en anglais, mais là, ils étaient traduits en français. Mais c'est très difficile, parce que le texte n'est pas dit n'importe comment. Il est écrit sur la partition, il doit être dit en rythme, et comme s'il s'agissait en fait d'une partition musicale. Donc, c'était un peu particulier, et très beau. Alors moi j'ai beaucoup...
Mais ils se sont bien débrouillés. débrouille.
Ah, complètement, trouve, hein, complètement. Ah, c'est pas facile.
Ils parce ont que... beaucoup le travaillé, je suppose.
Oui, oui,
ils ont beaucoup travaillé. Ils n'ont pas choisi non plus cette œuvre par hasard, mais bon.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé la voix de Fossé de Benoît VIII dans La Souris Grise.
Ah non, mais il parle vraiment comme ça, hein. Il présente.
C'était vraiment très, très amusant, très bien fait. Et enfin, la dernière œuvre du programme, alors c'est vraiment la plus connue. C'est une œuvre donc de Gheorghe Ligeti, le compositeur hongrois. Si bagatelle pour Quintet avant. Il s'inspire beaucoup dans ses pièces de Bartok et de Stravinsky. Hein. En fait, il s'agit d'un arrangement pour Quintet avant de 6 des 11 pièces pour piano du même Ligeti qui s'appelle Musica Ricercata, que quelquefois certains pianistes mettent au programme de leur concert. Elles explorent toutes les richesses sonores et rythmiques dont un tel ensemble est capable. Et donc, c'était vraiment un déploiement tout à fait impressionnant de virtuosité de la part des musiciens. C'est une pièce extrêmement virtuose, avec un mouvement plein d'émotions, qui est l'adagio, mesto, et qui est en fait à la mémoire de Béla Bartók. Très, très beau moment. Et donc, pendant tout ce concert, Sandrine Voller a dessiné, donc, et à la suite, elle a exposé les dessins qu'elle avait fait en direct et que l'on pouvait acheter. Donc voilà, concert tout à fait original. Et... vraiment intéressant.
J'espère qu'on aura l'occasion de revoir ces musiciens et ces musiques parce que, comme vous l'avez dit, c'est très très rare qu'elles soient jouées et qu'elles soient jouées tout en même temps. Comme ça,
ah oui, oui, rarissime. Hein.
Nous allons écouter une des pièces jouées vendredi à Saint-Pierre-des-Cuisines par les musiciens des Clés de Saint-Pierre. Il s'agit justement de la première des 6 bagatelles de Gheorghe Ligeti, Allegro con Spirito. Allegro con Spirito, la première des 6 bagatelles de Gheorghe Ligeti. Notez que le prochain concert des Clés de Saint-Pierre est programmé lundi 5 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines et vous pourrez y entendre des quatuors à cordes de Haydn, Mozart et Beethoven. Beethoven dont nous célébrons, vous le rappeliez Serge, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le 250e anniversaire de naissance en cette année 2020. Et le grand Ludwig était aussi à l'honneur du récent concert de musique en dialogue au Carmélite, Looking for Beethoven. C'est le titre du spectacle qu'a proposé le pianiste Pascal Amoyel dimanche à la chapelle des Carmélites et il s'agit vraiment d'un spectacle. Le terme concert serait vraiment réducteur pour décrire la prestation et même la performance de Pascal Amoyel. Je crois que vous serez d'accord avec moi Serge.
Ah tout à fait, c'est vraiment renversant. Hein. On parle de concert lecture mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. Et en fait, Pascal Amoyel n'est pas simplement pianiste, il est pianiste, auteur, puisqu'il a écrit une grande partie du texte qu'il déclame, il est récitant. Et il est acteur. Donc c'est un vrai spectacle, mais d'une intensité impressionnante. Hein. Alors moi, ce qui m'a d'abord frappé, c'est le mimétisme. Il devient Beethoven complètement. Donc c'est vraiment impressionnant. Hein. Ça donne le frisson par moments.
Mais là, on peut parler vraiment d'incarnation. Parfois, les metteurs en scène n'aiment pas qu'on emploie le mot, mais là, il y a quelque chose de cet ordre.
Ah oui, oui, oui. Alors d'abord, dans une introduction tout à fait révélatrice, il a commencé par dévoiler les circonstances de sa découverte de ce qu'il appelait le vrai Beethoven, donc au-delà des poncifs, des traditions. Et donc, ensuite, il a établi, en jouant et en parlant, un récit pratiquement chronologique de la vie de Beethoven qui mêle alors le texte et les notes, mais de manière complètement magique. On est impressionné par l'intelligence de ce parcours, puisque c'est un voyage, en quelque sorte, au sein de la vie de Beethoven. Alors, il y a des choses qui sont tragiques dans ce qu'il raconte, évidemment. On connaît la surdité de Beethoven, évidemment. Mais pas que cela. Hein. Donc, il a évoqué le petit garçon battu tous les jours par un père ivrogne, jusqu'à l'homme sourd voyant mal et continuellement malade. Enfin, c'est une vraie passion qu'a vécu Beethoven. Hein. Et là, telle qu'elle était mise en scène, décrite, jouée par Pascal Amoyel, eh bien, il y avait d'abord une sensibilité, une émotion tout à fait rare. Hein. Alors, il n'a pas joué que du Beethoven, il a commencé, à juste titre, par évoquer les sources de l'héritage. Donc, alors, il a joué du Mozart et il a joué du Handel, qu'admirait beaucoup Beethoven. Et puis, il en est arrivé à la découverte de Jean-Sébastien Bach et du choc que ça a représenté pour Beethoven, cette découverte, avec cette sublime simplicité de l'aria des variations Goldberg. C'était un moment émouvant, mais incroyable. Et l'essentiel du contenu musical, eh ben, il l'a puisé dans l'Himalaya des 32 sonates, évidemment. Comment faire autrement?
Ah, c'était le fil conducteur quand même un peu du
concert.
C'était
le fil conducteur.
Hein. On vivait la vie de Beethoven au fil des sonates, de la composition des sonates, toute première à la toute dernière.
Oui, alors des premières tout à fait mozartiennes, légères, hein, très, très, comment dire, détachées un peu. Et puis, c'est allé jusqu'aux dernières, jusqu'à la fameuse opus 111, en passant par la pathétique, évidemment, la sonate au clair de lune, la tempête, la passionata, les adieux, la hammer clavier. Il a vraiment insister sur les sonates à sous-titre. Hein, c'était tout à fait intéressant. Et puis, il est arrivé à cette formule d'une justesse incroyable lorsqu'il a déclaré à la fin, alors que la vie refusait la joie, Beethoven la créa lui-même dans sa musique pour en faire don à l'humanité. N'oublions pas que cette ode à la joie de la 9e de Beethoven est devenue l'hymne européen. Hein, donc, il y a bien une raison là-dedans. Hein. Vraiment, une trajectoire tout à fait extraordinaire de la part de l'interprète. Il y a eu un long silence, vraiment un long silence ému de tout le public, jusqu'à l'ovation qui a explosé là. Il a été rappelé. Vraiment, hein, une ovation enthousiaste. Alors, si certains s'attendaient à ce qu'il joue un bis, ben non, on ne peut pas jouer un bis après un spectacle comme celui-là. Est-ce qu'on jouerait un bis après un Requiem?
Enfin, mais c'est surtout qu'après la sonde, c'est toujours difficile de jouer un bis.
Non, mais c'est pas possible. Alors, il a fait mieux que ça.
Oui, parce qu'il a été malin. Évidemment, pendant tout le spectacle, notamment quand on arrivait vers l'année 1802, il égrenait les années qui passaient.
Oui.
Et hop, 1802, on passe 1803, 1804, 1805, et le testament d'Ali Jungstadt, il n'en parle pas.
Et c'est parce qu'il l'a réservé pour un retour.
Mais c'est normal, c'est un testament, donc c'est à la fin un testament.
Voilà,
c'est
exactement.
Logique.
Et donc, il s'est emparé d'un document, on a l'impression que c'était même un facsimilé qu'il avait à la main. Et donc, il a lu quelques extraits, l'essentiel d'ailleurs, du fameux testament d'Heiligenstadt que Beethoven avait rédigé en 1802, à Heiligenstadt, qui est maintenant un petit faubourg de Vienne, hein, à la suite duquel il se dirigeait vers un suicide, hein, évidemment, puisque c'est ce qu'il mentionne dans ce testament. Heureusement pour nous, il n'a pas mis à exécution son projet, et donc, s'il ne l'a pas mis à exécution, c'est qu'il a pensé qu'il avait une mission à accomplir auprès des hommes, hein, ce qu'il a fait par sa musique. Donc, magnifique idée que de terminer par le testament d'Heiligenstadt comme un magnifique point d'orgue pour cette rencontre qui est mémorable.
On va laisser le dernier mot à Beethoven et à sa musique. Pascal Amoyel a joué entre autres la sonate numéro 23, plus connue sous le nom d'Appassionata. Et bien voici le premier mouvement Allegro assez sous les doigts de Pascal Amoyel. Le premier mouvement Allegro assez de la Passionata, la sonate numéro 23 de Beethoven, jouée par Pascal Amoyel, avec qui nous concluons cette première partie d'émission. Prochain et dernier rendez-vous de musique en dialogue au Carmélite, dimanche 27 septembre à 16h, avec le programme Suite et Danse, des artistes hip-hop qui vont danser sur les suites pour violoncelle de Bach jouées par Maïtan Sébastien. On est impatients de voir ça. Une toute petite pause et nous retrouvons Jean-Marc Andrieux, notre invité d'honneur, et Serge Chosy pour une seconde partie largement consacrée au festival Passion Baroque. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La suite de ce numéro de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur Jean-Marc Andrieux, directeur artistique de l'orchestre baroque de Montauban Les Passions et directeur artistique du festival Passion Baroque dont nous allons parler dans quelques minutes, parce que nous allons commencer cette rubrique agenda encore avec Serge Chosy qui va nous présenter le premier récital de la saison Théâtre du Capitole. Le 26 septembre, ce sera la première de Così fan tutte, nous vous en parlerons la semaine prochaine, mais la veille, vendredi 25 à 20h, il y a un rendez-vous à ne pas manquer avec le duo formé depuis peu par la soprano Sabine Devielle et le pianiste Alexandre Tarot. Deux grands musiciens qui vont donner un programme de mélodie française, Serge.
Oui, tout à fait. Alors Sabine Devielle, on l'a déjà vue à Toulouse, hein. Elle est venue plusieurs fois dans le cadre des concerts de l'ensemble Pygmalion, qui est dirigé et fondé par Raphaël Pichon, qui se trouve être l'époux de Sabine Devielle. Alors, Sabine Devielle, sa voix est caractéristique d'une voix de soprano coloratoire. Mais ça n'est pas une voix de petit rossignol qui fait des cocottes. C'est beaucoup plus que ça. Elle ne se contente pas de vocaliser à la perfection, d'avoir des aigus flamboyants, mais c'est vraiment une chanteuse qui exprime, qui a une diction parfaite, qui est musicienne, profondément musicienne, vraiment une grande artiste et pas simplement une chanteuse.
Donc, et quand on écoute ce que vous venez de dire, on comprend qu'elle a tout ce qu'il faut pour chanter la mélodie française, notamment la diction.
Tout à fait. Disons qu'elle a eu des tas de prix. Elle a été désignée notamment Révélation Artiste Lyrique en 2013. En 2015, c'était l'Artiste Lyrique de l'année. Donc oui. En deux ans, elle avait franchi le Rubicon, oui. En quelque sorte. Donc vraiment, une artiste qu'il faut suivre, hein, qui a d'immenses qualités. Et elle vient d'enregistrer un album édité par Mirage, et qui est un album en compagnie du pianiste Alexandre Tarot, qui est un autre grand artiste, hein, que l'on connaît bien, comme artiste soliste, évidemment, et qui a pris un plaisir énorme, il le déclare lui-même, à accompagner la voix. Il adore accompagner le chant.
Oui, il est vrai que sur le papier, Alexandre Tarot, Sabine Devielle, on se dit, ça devrait fonctionner.
Ça devrait fonctionner, et je crois que ça fonctionnera, puisque au programme de ce concert, donc, il y a les grands compositeurs français de mélodies, à commencer par Claude Debussy, Gabriel Fauré, Maurice Ravel et Francis Poulenc. Quatre grands compositeurs de mélodies françaises du XXe siècle, on peut dire. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, il y a des tas d'œuvres au programme, notamment les Ariettes oubliées de Debussy, puis d'autres mélodies comme Nuit d'étoiles, Romance, Apparition, etc. De Poulenc, deux poèmes de Louis Aragon, mis en musique par Poulenc, donc. Et puis, de Fauré, alors une série de mélodies connues, hein, en général, Après un rêve, Notre amour au bord de l'eau, et puis Les berceaux, qui est une mélodie qu'on entend assez souvent. Et enfin, de Maurice Ravel, il y aura donc le cycle des chansons françaises avec Sur l'herbe, manteau de fleurs, et puis les cinq mélodies populaires grecques qui ne sont pas si souvent données. Vraiment, on attend ça avec un grand intérêt.
Alexandre Tarot et Sabine Devielle qui viennent aussi de faire paraître un magnifique CD Chansons d'amour sous le label Erato Warner. On ne va pas se priver du plaisir d'écouter Sabine Devielle accompagnée par Alexandre Tarot. Voici un extrait du programme du 25 septembre. Vous venez de citer cette magnifique mélodie de Gabriel Fauré, Après un rêve.
Thank you.
Après un rêve, sublime mélodie composée par Gabriel Fauré sur un poème de Romain Bucine chanté par Sabine Devielle, accompagné par le piano d'Alexandre Tarot, ne ratez pas le rendez-vous avec ces deux merveilleux musiciens vendredi 25 septembre à 20h30 au Théâtre du Capitole. À nous maintenant, Jean-Marc Andrieux, pour la 6e édition de Passion Baroque qui se tient donc à Montauban et dans d'autres lieux du Tarn-et-Garonne du 3 au 11 octobre, un événement désormais annuel. L'édition 2019 avait pour thème « À la rencontre des baroques du monde », et cette année ce n'est plus dans le monde que vous allez nous faire voyager, mais plutôt dans le temps, aux rives du baroque. C'est le sous-titre de l'édition 2020. Ça veut dire que la programmation tourne autour de ce qu'il y a eu juste avant et juste après le baroque, c'est ça?
Vous avez parfaitement deviné, effectivement, il s'agit d'explorer les deux rives, on pourrait dire aussi l'amont et l'aval. Enfin, bon, c'est un peu compliqué à exprimer.
La métaphore du fleuve est très bien aussi.
La métaphore de ce fleuve baroque marche plutôt bien. Donc les rives, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment a démarré la période baroque et puis comment elle s'est achevée, qu'est-ce qui s'est passé ensuite.
Voilà. Alors justement, la période pré-baroque, je vais l'appeler comme ça, qu'est-ce que c'était en fait? C'est quoi? C'est la polyphonie de la Renaissance?
Exactement, c'est la polyphonie de la Renaissance qui, à la fin du XVIe siècle, sous l'influence de la contre-réforme, a vu la modification du langage musical de façon à pouvoir exprimer différemment les émotions humaines.
Et la période qui va mener du baroque au classique, qui sont ceux qui font la transition? Alors je pense par exemple à un certain Carl-Philippe Emmanuel Bach.
C'est lui, le fils d'eux. Effectivement, c'est les fils, notamment Carl-Philippe Emmanuel, le second fils, qui a repris le flambeau de son père et qui a ouvert la voie, parce que c'est vrai qu'après Jean-Sébastien, il était difficile de continuer sur cette voie.
Surtout sous ce nom-là.
Surtout sous ce nom-là.
Donc à l'époque, Bach n'était pas si connu que ça. Il faut se replacer dans le contexte, Jean-Sébastien Bach.
Pas si connu, mais le langage arrivé à un achèvement. Et Carl-Philippe Emmanuel Bach, effectivement, a trouvé le moyen de renouveler l'expression musicale par des procédés dont on parlera.
On va en reparler de Carl-Philippe Emmanuel Bach et de cette période de transition entre le baroque et le classique. Regardons maintenant la programmation, où l'on constate qu'il y a en fait deux phases dans le festival. La première hors de Montauban et une autre dans la capitale du Tarn-et-Garonne. Donc le coup d'envoi du festival est donné à Beaumont-de-Lomagne, le samedi 3 octobre à 18h30, à la maison de Fermat, qui est en fait la demeure natale de Pierre de Fermat, le grand mathématicien, transformé en lieu dédié aux mathématiques. Quel genre de concert on peut proposer dans un tel endroit? Il faut qu'il y ait un rapport avec les mathématiques?
Oui. C'est pas évident.
C'est un prérequis.
Mais ça, on a déjà donné des concerts en collaboration avec la maison Fermat. L'année dernière, donc, on a déjà donné un concert sur le thème des fractales. Donc, on a joué des canons de Pachelbel, des extraits de l'offrande musicale, en lien avec un mathématicien qui expliquait le phénomène donc de mathématique des fractales, qui est la reproduction d'un motif sur une autre échelle. Et finalement, en musique, on retrouve ce fonctionnement dans le canon ou dans la répétition d'un motif. Donc, évidemment, on a travaillé ensemble sur ce thème et on a fait une proposition. Cette fois-ci, ce sera le thème de l'aléatoire, les statistiques, les probabilités.
Et donc la composition aléatoire.
Composition aléatoire, et il faut savoir donc qu'il existe depuis très longtemps une façon de composer de la musique en jouant au dé, figurez-vous, et donc le public va jouer au dé et va composer en tirant au sort sur un plateau de dés, va composer un menuet qui est une partition que j'ai trouvée à la bibliothèque à Montauban, figurez-vous, une partition espagnole qui vient d'Espagne, alors anonyme, et qui est basée sur un principe donc de composition, comme je viens de dire, aléatoire de menuet. Vous tirez au dé, vous faites par exemple le 3. Vous regardez sur une table, en face du numéro 3, il vous faut jouer la mesure 84. Et il y a un réservoir de 174 mesures. Et il n'y a pas deux mesures pareilles. Et on fait un menuet basé sur 2 x 8 mesures. C'est un peu difficile à expliquer comme ça. Mais le mieux, c'est de venir voir et de venir jouer avec nous.
Oui, alors donc, c'est intitulé Jeu de dés, hein, ce concert. Vous savez que Mallarmé a écrit un poème dont le titre est « Un coup de dés jamais n'abolira le hasard ».
Oui.
Donc, est-ce que le hasard va bien faire les choses? On verra, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, cette affaire.
Et non,
que soient les numéros qui vont être tirés, ça ressemblera forcément à quelque chose ou...
Oui, bien sûr. De toute façon, après, la personne, je ne sais
donc
pas,
c'est anonyme. Hasard,
mais celui qui a écrit cette pièce, il sait bien qu'à la première mesure, il met la tonalité de Ré majeur, c'est organisé de façon que, quand même, ça ait du sens.
En parlant de mathématicien, il va y en avoir un qui sera présent.
Oui,
Oui, Vincent Février, qui est mathématicien, enfin je ne sais pas, docteur en mathématiques
sans doute. Oui, et chercheur.
Chercheur, mais organiste aussi.
Et musicien. Et on va évidemment parler ensemble de cette composition aléatoire. Et puis lui aussi développera la notion d'aléatoire en mathématiques. Je dois aussi vous dire qu'on va jouer une valse. On ne va pas jouer une valse, c'est le claveciniste qui va jouer une valse. De qui ? De Mozart, qui a écrit une valse aléatoire avec un jeu de dés qu'on fera aussi tirer au sort par le public.
Connaissant la personnalité farceuse de Mozart, ça ne m'étonne pas. Il y a 3 autres événements hors les murs de Montauban, 2 récitals de la soprano Tosca Russo, accompagnée par le claveciniste Yvan Garcia. Ils sont donnés le 4 octobre, successivement à 15h au château de Gramont, puis à 18h au château de Lamotte. Le programme a été intitulé Confidence musicale, et là c'est une sorte de balade à travers le baroque lyrique de ses débuts à ses derniers temps.
C'est une promenade, c'est une carte blanche. J'ai dit à Tosca, que j'aime beaucoup, qui est une jeune chanteuse extrêmement talentueuse, qui a déjà participé au festival l'année dernière. J'ai souhaité la réinviter parce qu'elle a vraiment un grand talent. Elle a remporté des prix d'art lyrique en Italie. C'est quand même une référence. Et donc, je lui ai donné une carte blanche en lui demandant un petit peu de balayer le répertoire de l'opéra pendant la période baroque. En tout cas, ce sera un très très beau moment et l'occasion de voir aussi un patrimoine. Il faut en profiter aussi pour dire qu'il y a des visites guidées et de voir un patrimoine exceptionnel.
Et puis, dernier événement dehors de Montauban, mais pas très loin, dans la toute proche commune de Bressols, au cinéma La Muse, mercredi 7 octobre, vous proposez une soirée autour du thème l'opéra au cinéma. On reste dans le lyrique, mais dans le lyrique d'après le baroque, puisque vous allez projeter à 19h45 le Don Giovanni de Joseph Losey, l'adaptation de l'opéra de Mozart que le cinéaste américain a réalisé en 1979, avec Ruggero Raimondi dans le rôle-titre. Pourquoi vous avez choisi précisément ce film et cet opéra ?
Alors, l'idée, c'est d'abord quand même de proposer une séance cinématographique aux cinéphiles et puis aux amateurs de musique et puis de revoir des chefs-d'œuvre. L'année dernière, nous avons revu Barry Lyndon, qui n'a rien de baroque, hein, sauf Handel, bon, le thème de Handel, mais la musique, c'est plutôt Schubert. Bon, bref, concernant le film de Losey, de Don Giovanni, en fait, c'est un choix concerté avec nos collaborateurs quand on a réfléchi et surtout avec Sylvie Bouissou, qui est musicologue et qui pensait que c'était une bonne idée de parler du Don Giovanni de Losey. Donc finalement, ce n'est pas tellement un choix en lien avec le thème du festival, mais plutôt un moment cinématographique partagé avec une discussion avec le public avant. Et Sylvie Bouissou, on va en reparler, qui est une grande musicologue, nous donnera aussi son avis sur ce genre de reconstitution historique.
Voilà, discussion, débat avec Sylvie Bouissou. Discussion entre vous deux à 18h. Il y a un buffet à 19h aussi, oui, avant le film. On aime les bonnes choses, hein, la passion baroque.
Oui, il faut se nourrir avant le film qui dure 3h.
Voilà, le film dure 3h. Bah oui, film opéra, bien sûr. Alors, avec une distribution extraordinaire, parce que j'ai cité Ruggero Raimondi, mais il y avait aussi Edda Moser, Kirite Kanawa, Teresa Berganza, et José Van Damme dans le rôle de Leporello. Voilà, bon, magnifique. Et pour le plaisir et pour réentendre la voix de Ruggero Raimondi dans ce rôle, nous allons écouter un petit extrait du Don Giovanni de Joseph Losey et Via Buffone.
Non lo padrone, non lo padrone, non vorrei star. Senti, mio amico, può andar ridico. Ma che ti ho fatto? E vuoi lasciarmi? O ne ti ha fatto quasi ammazzarmi? Ma che sei matto, ma che sei matto, 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 tu per collar. E io non burlo, e io non burlo, 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 ma voglio andare a buffone. Senti, mio amico, può andarmi. Ma che sei matto, ma che sei matto, ma che sei matto, 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 matto.
Et Via Buffone, extrait du Don Giovanni de Mozart, porté à l'écran par Joseph Losey, avec Ruggero Raimondi dans le rôle-titre, on a entendu sa voix là. Ce film est donc projeté au cinéma La Muse de Bressols, mercredi 7 octobre à 19h45, et la veille, mardi 6 octobre, ce sera le premier jour du festival à Montauban, et au théâtre Olympe de Gouges à 20h30, avec la représentation du Songe d'une nuit d'été, la célèbre pièce de Shakespeare, dans une version musicale, donnée par les comédiens et musiciens de la compagnie A, lancée le festival Montauban part du théâtre, même musical, ce n'est pas anodin comme choix. Hein. C'est pour montrer passion baroque, c'est aussi peut-être avant tout un festival interdisciplinaire, multidisciplinaire.
Tout à fait. Et en plus, c'est pour montrer que le hasard fait bien les choses, parce qu'en fait, Aurélie Barbouchial, ma collègue directrice du théâtre des salles de spectacle à Montauban, avait déjà programmé d'inviter cette compagnie à donner le Songe d'une nuit d'été qu'elle avait vu, qu'elle avait beaucoup aimé. Et finalement, on s'est dit, c'est évident, il faut qu'on collabore, et on a intégré ce spectacle dans notre programmation. C'est d'ailleurs, je crois, un des rares moments du festival où on entendra de la musique du milieu du baroque. Là, on sera au milieu de la rivière. Hein.
Oui, parce que c'est Purcell, c'est The Fairy Queen, hein, qui les
voilà,
qu'on entend pendant
de grands extraits de Fairy Queen qui seront intégrés dans Le Songe d'une nuit d'été, l'un des chefs-d'œuvre de Shakespeare.
Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est que la pièce a été écrite en 1594-1595, donc on est juste avant le début du baroque. On a coutume de dire que c'est vers 1600, le début du baroque.
1600, mais il y a des prémices déjà vers 1580.
Oui. Voilà, on est en plein dedans. Alors, vous aurez aussi une avant-scène avec Antoine Herbez, le metteur en scène de la compagnie A. Ce sera 18h30 au théâtre Olympe de Gouges. Le jeudi 8 octobre, vous allez de nouveau vous entretenir avec Sylvie Buissou à 14h30 au très beau musée Ingres-Bourdel. La conférence a pour titre « Du baroque au classique ». Donc vous allez expliquer avec Sylvie Buissou comment on est passé du baroque au classique au cours du XVIIIe siècle et quels ont été les personnages essentiels de cette transition.
Exactement. Enfin, vous allez expliquer, c'est plutôt elle qui va expliquer, je vais beaucoup attendre.
Vous allez l'interroger.
De ses lumières, c'est le cas de le dire. C'est vraiment la spécialiste, et j'ose dire le mot mondial, de Rameau et du XVIIIe siècle français. Et on va profiter quand même d'une historienne de la musique exceptionnelle. Vraiment, c'est une grande chance de l'accueillir.
Et donc c'est là qu'on va sans doute de nouveau entendre parler de Carl-Philippe Emmanuel Bach.
Oh ben, inévitablement, je pense qu'on va en parler aussi de Rameau, de l'influence de Rameau sur l'évolution du langage, mais aussi, évidemment, on parlera des fils de Bach, notamment Carl-Philippe. Oui, c'est une période assez complexe. De toute façon, toutes ces périodes de transition, on a parlé de 1600, c'est vrai qu'en l'année 1600, on n'a pas dit, ça y est, on va écrire de la musique baroque. Et puis on n'a pas dit, en 1750, stop, on va passer. Hein, il y a toujours
C'est des repères faciles à retenir, évidemment.
Des glissements, et évidemment, il faut bien mettre une borne quelque part. Mais en tout cas, on va justement étudier la transition et le passage de l'un à l'autre et qui a aidé à faire passer le langage d'un mode d'expression à l'autre.
Oui, on fait arrêter le baroque à la mort de Bach en 1750. Évidemment, ça ne s'arrête pas pile à ce moment-là.
Surtout pas en France, en tout cas.
Et le soir, à 20h30, concert au même endroit donné par la violoniste Gillonne Gaubert et la claveciniste Elisabeth Joyer. Le programme est intitulé justement « L'héritage Bach » et on va y entendre des œuvres de Mozart et de deux fils de Jean-Sébastien Bach. Carl-Philippe Emmanuel, dont nous avons déjà parlé, lui c'est le deuxième des fils, et Johann Christian qui est le dernier, un programme là qui illustre complètement, je pense, la transition entre baroque et classique.
On y est complètement là, et on a la chance d'avoir deux grandes artistes, Gillonne Gaubert, violoniste, qui joue avec nous de temps en temps, et qui sera accompagnée d'Elisabeth Joyer au clavecin. On a quand même un duo là exceptionnel pour justement illustrer ce que vous venez de dire, la fin du XVIIIe siècle.
Et Mozart, qui, comme beaucoup de compositeurs de son temps, avait la plus grande admiration pour Carl-Philippe Emmanuel Bach.
Ah ben, Carl-Philippe Emmanuel Bach,
on passe compte, à l'époque, son professeur. Carl-Philippe Emmanuel Bach, dans toute l'Europe, on allait presque le voir comme on ira à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, c'était une référence, et c'est lui qui a un peu révolutionné le langage. Bon, les Allemands, les musicologues allemands parlent du Sturm und Drang, et puis de Empfindsamkeit, c'est un terme aussi important, qui veut dire qu'on exprime les émotions humaines par une très très grande instabilité du langage musical. On passe sans transition, par exemple, de la joie à la tristesse ou réciproquement. Et ça, c'est une des caractéristiques du langage de Carl-Philippe Emmanuel Bach.
Vendredi 9 octobre, au Théâtre Olympe de Gouges encore, il va y avoir ce qui devrait être un des grands moments de ce festival 2020, Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi, interprété par l'ensemble Ludus Modalis. Avec cette œuvre immense, on revient cette fois-ci aux sources du baroque.
Et là, voilà, on retraverse la rivière, on va de l'autre côté, sur l'autre, on revient au début, et là, une œuvre vraiment emblématique, tout à fait emblématique de Monteverdi, qui est le grand génie. C'est lui qui, en fait, assure ce basculement de l'ancienne façon de composer la musique, comme vous le disiez tout à l'heure, la polyphonie, et qui, lui, va explorer ce nouveau paysage musical qui est la monodie accompagnée par la basse continue. Et les Vêpres, justement, son recueil, les Vêpres, alterne le style ancien, stylo antico, et le stylo moderno avec des solos dans le nouveau style. Et c'est justement 1610, donc les Vêpres, cette œuvre vraiment emblématique de la transition entre la Renaissance et le baroque.
Alors, particularité tout de même, parce que l'ensemble Ludus Modalis va interpréter les Vêpres de la Vierge dans une version sans instrument concertant.
On est habitué effectivement au cornet à bouquin, au violon, à tout un ensemble instrumental. Et ici, Bruno Botter a souhaité épurer.
Le directeur musical donc de l'ensemble,
de Lucius Modalis, voilà, de l'ensemble, a encore plus accentué le côté vocal de l'œuvre. Et on va entendre sous un nouvel éclairage, ils ont enregistré l'œuvre et le disque, on peut le trouver, un éclairage que je trouve extraordinaire.
Il y aura une avant-scène avec lui à 18h30, donc là vous allez rentrer un peu dans le détail, je suppose.
C'est cela, voilà. On souhaite chaque fois faire une avant-scène ensemble pour un peu discuter de l'œuvre, et développer et répondre aux questions du public.
Je pense que personne ne verra d'inconvénient à ce qu'on écoute maintenant un extrait des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, et c'est dans la version proposée par l'ensemble Ludus Modalis, telle que vous pourrez l'entendre au Théâtre Olympe de Gouges le 9 octobre. Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi, interprété par l'ensemble Ludus Modalis, qui va donc donner une version sans instrument concertant au Théâtre Olympe de Gouges, vendredi 9 octobre à 20h30. Et le samedi 10 octobre, il va y avoir une journée en trois temps. Les deux premiers vont être dédiés à la littérature. À 11h, à la Petite Comédie, où il va y avoir une rencontre avec l'écrivain Akira Mizubayashi. Puis à 15h, à l'auditorium du Conservatoire de Montauban, avec une lecture musicale d'Âme brisée, son dernier roman paru chez Gallimard. J'avoue que je ne connaissais pas cet auteur japonais d'expression française. Il vit en France et apparemment c'est un mélomane passionné.
Oui, absolument. Un grand mélomane et puis un grand écrivain qui écrit parfaitement en français. Je ne sais plus de quelle école il vient, peut-être de l'école normale supérieure, je crois qu'il a fait.
Ah, c'est un, d'accord.
Oui.
Un normalien,
mais
c'est un normalien.
Il vit entre la France et le Japon. Aux dernières nouvelles, les conditions sanitaires ne vont pas permettre sa venue, mais on, de toute façon, on va travailler à une transmission par vidéo avec lui. Et on l'a invité parce qu'il a écrit ce roman, Âme brisée, qui est vraiment... je conseille à tout le monde de le lire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. C'est l'histoire d'un violon, en fait.
Ah, oui.
Une histoire vraiment très émouvante et qui est basée aussi sur trois œuvres musicales qui sont un peu le fil conducteur. La Chaconne pour violon seul de Bach. Il y a aussi le Quatuor Rosamund de Schubert et puis le Concerto à la mémoire d'un ange de Berg. Et donc, on a prévu de donner des extraits des œuvres, sauf Berg, qu'on ne touchera pas. Sinon, voilà, l'idée, c'est de faire une lecture musicale avec les œuvres qui sont citées dans le livre.
Voilà, lecture musicale qui a lieu à 15h donc à l'auditorium du Conservatoire rayonnement départemental de Montauban avec Olivier Janel en récitant, comédien toulousain que je connais très bien, qui est un excellent comédien, un excellent récitant, très bon choix. Et puis avec la violoniste Stéphanie Paulet qui joue souvent avec vous désormais.
Bien sûr, que nous avons invité l'année dernière en tant que soliste pour les concertos pour violon et avec qui on a bien sûr sympathisé et qui va proposer les extraits musicaux de son violon pour cette lecture musicale qui s'avère passionnante.
Oui, je pense que ce sera un très très beau moment. Alors le soir à 20h30, ce même samedi 10 octobre, dernier grand concert de ce festival 2020, vous allez y diriger votre orchestre des passions, Jean-Marc Andrieux, pour accompagner Yasuko Uyama Bouvard dans l'interprétation des concertos numéro 20 et 21 de Mozart. Ça va être en quelque sorte la fin du voyage aux rives du baroque, la boucle boucle sera bouclée avec ces deux œuvres emblématiques de la période classique, mais elles vont être données sur pianoforte. C'est l'instrument sur lequel Mozart a composé. Je pense que la création a eu lieu sur pianoforte.
Tout à fait, et d'ailleurs cet instrument qui était au début de sa fabrication, c'est vrai que Bach, à la fin de sa vie, en a essayé les premiers instruments. Il a dit que c'était voué à un avenir plutôt intéressant, mais que pour le moment, ça ne marchait pas très bien. Après, avec Mozart, l'instrument sera beaucoup plus au point, marchera beaucoup mieux. Alors, je rappelle juste pour nos auditeurs, pianoforte, pourquoi on appelle ça le pianoforte? En italien, piano, c'est doux, forte, c'est fort. Et c'était justement le système de ce fameux Cristofori qui a inventé ce système. Quoique, il existait déjà des instruments au 15e siècle qui marchaient sur ce principe. Ça permet de jouer piano et forte parce qu'en fait, au lieu de pincer la corde, ce qui ne donne aucune possibilité de dynamique. Si on tape sur la touche et qu'un petit marteau qui est recouvert de cuir pour le pianoforte va frapper la corde, si vous frappez plus ou moins fort, le son va être plus ou moins puissant. Du coup, ça permettait de faire des nuances, qui était un plus par rapport au clavecin. Alors Mozart a commencé sa vie de musicien au clavecin, les premières œuvres qu'il a composées c'est pour le clavecin, mais très rapidement quand l'instrument, notamment avec un des facteurs célèbres de l'époque, Walter, a pu fabriquer un instrument correct au niveau du mécanisme, Mozart s'est mis tout de suite et a exploré ses possibilités.
D'ailleurs, c'est Mozart lui-même qui avait créé le 20e concerto au pianoforte. Alors, deux œuvres aux atmosphères très contrastées, le 20 et le 21. Oui. Parce que le 20, c'est le seul concerto pour piano de Mozart en mode mineur.
En ré mineur, c'est le seul. Exactement.
Ouais, c'est le seul.
Et le 21 est en do majeur.
Bon, Yasuko Bouvard, on ne la présente plus trop à Toulouse. En tout cas, grande pianofortiste, grande claveciniste, grande organiste. Nous allons écouter un extrait du concerto numéro 21 de Mozart, dont voici le troisième mouvement, Allegro vivace assai. Le troisième mouvement Allegro vivace assai du concerto numéro 21 de Mozart, une version avec pianoforte dirigée par John Elliott Gardiner. Le 10 octobre à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges, c'est Yasuko Bouvard qui sera au pianoforte, accompagné par les Passions de Montauban sous la direction de Jean-Marc Andrieux pour jouer les concertos 20 et 21 du même Mozart. Il va rester une journée de festival dimanche 11 octobre, mais là ce sera plutôt une journée festive. À 11h au Théâtre Olympe de Gouges, il y a une journée à Versailles proposée par l'ensemble Lyra. De quoi il s'agit exactement rapidement.
Il s'agit de, avec les enfants, de se promener dans le théâtre et d'imaginer qu'on passe la journée à Versailles à accompagner le roi et la reine dans leur pérégrination. Et donc le théâtre Olympe de Gouges se transformera en château de Versailles avec cet ensemble Lyra qui sont des jeunes musiciens toulousains que j'ai plaisir à inviter.
Voilà, il y aura des musiques de Couperin, Lully, Michael Praetorius et Jean-Philippe Rameau. Et puis dans la foulée, il y aura de 12h30 à 15h au même endroit une scène ouverte baroque pour la clôture du festival. Scène ouverte, c'est-à-dire que tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir venir jouer sur scène.
Venez tous avec votre instrument, vos partitions et ensemble, on se fait une jam session baroque.
Voilà donc pour la programmation de Passion Baroque 2020, fin du présent numéro de Mélomanie, auquel je remercie chaleureusement Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux d'avoir participé. Je rappelle donc que la 6e édition de Passion Baroque a lieu du 3 au 11 octobre à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne, avec une programmation sur le thème « Aux rives du baroque ». Pour en savoir plus, je vous recommande de consulter le site web des Passions, www.les-passions.fr, où vous trouverez tout le détail du programme du festival, les informations pratique également. D'autre part, notez que les réservations et les achats de places en ligne sont à faire à l'adresse www.lesamisdespassions.festic.net. Je signale aussi qu'il reste de nombreux concerts auxquels assister au festival Piano Jacobin, entre autres celui d'Ivo Pogorelitch, mardi 22 septembre à 20h à la Lograin. Renseignements et réservations sur le site www.pianojacobin.com. Et enfin, pour réserver et acheter vos places au récital de Mélodie Française de Sabine Devielle et Alexandre Tarot, vendredi 25 septembre à 20h au Théâtre du Capitole, il faut vous connecter au site www.theatreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles et excellente semaine musicale à tous.